Je voudrais souhaiter la bienvenue à tous fraternellement, particulièrement bien sûr ceux qui peut-être sont ici pour la première fois. Et nous espérons que ce ne sera pas la dernière fois, mais que Dieu parlera à chaque cœur et par sa parole et par son esprit produira l'effet pour lequel il a envoyé sa parole. J'ai les salutations à remettre de frères et de sœurs qui nous ont écrit. Particulièrement, cela m'a touché, de lire les lettres des frères où j'étais en février, particulièrement de la Corée. Et le frère qui avait là-bas la responsabilité pour les grandes réunions a écrit très brièvement, mais ça a beaucoup à dire. Il disait, frère Franck, la prédication me touche et ne laisse plus, mais pas seulement moi, mais tous ceux qui l'ont écouté. Quand est-ce que tu reviendras? Mais s'il te plaît, pour plusieurs jours. Et des lettres semblables sont venues. Et cela m'a consolé, m'a encouragé, en sachant par cela que le message divin atteint les extrémités de la terre et doit être porté jusqu'aux extrémités de la terre pour que les derniers soient appelés à sortir et que la totalité soit atteinte et que tous ceux qui doivent entrent et que le Seigneur puisse revenir pour prendre les siens auprès de lui. À la Pâque à Krefeld, nous avons eu des réunions bénies. Nous avons eu à héberger 200 personnes à peu près au centre missionnaire et le reste a été hébergé privé. Et c'était des jours de bénédiction que tous n'oublieront pas, tous ceux qui étaient là-bas. C'est un temps merveilleux d'un côté et un temps mauvais d'un autre côté. Glorieux pour tous ceux qui sont déterminés à la gloire. Mais avant d'aller dans la gloire, il faut que nous passions par des vallées, par des profondeurs et par des bas. Donc, nous avons dans ce cantique tous chanté. Je regarde toujours vers la gloire à ma demeure céleste où la couronne m'attend et le vêtement de victoire. Mon cœur est plein de nostalgie, de désir d'entrer par les portes en perles et avec le troupeau béni apparaître et se tenir devant le trône de Dieu. Si cela est comme ça dans ton cœur, que tu as vraiment un désir ardent d'entrer là-bas, une nostalgie, un profond désir ardent dans ton cœur te saisit, alors ça veut dire que réellement une place là-bas est préparée pour toi. Si ici tu as la nostalgie, tu as envie d'être à la maison, dans la gloire, ça veut dire que ta maison est là-bas, réellement. Mais si tu te sens ici à la maison, sur terre, et que tu ne veux pas quitter cette terre, alors on doit se poser la question, tu ne veux pas partir donc dans la gloire, on doit se poser la question, est-ce que vraiment dans ce cas, notre demeure est vraiment déjà au ciel? Que Dieu puisse par ses pensées simples, et qu'il puisse les utiliser pour parler à nos cœurs, ce n'est pas toujours, n'est-ce pas, les hauts discours, mais de cœur à cœur, Dieu veut parler avec nous et nous montrer l'importance des choses. Ici, nous le confessons avec Abraham et tous les saints. Nous n'avons pas de demeure ici sur terre. permanente, comme Abraham l'a dit dans Hébreux 11, mais nous cherchons celle que le Seigneur a préparée pour nous, dont il est l'architecte. Et je ne veux pas oublier, lors du dernier voyage en Israël, quelque chose m'a vraiment touché. Nous avons chanté ce cantique que nous venons aussi ici d'avoir entonné tout à l'heure. Gloire, gloire, alléluia. Et le frère Goldner, le conducteur du voyage, a entonné ce cantique avec nous et aussi le conducteur du bus. Et j'étais étonné. Et après, je lui ai demandé, mais écoute, frère Goldner, comment ça se fait que vous aviez chanté ce cantique avec nous? Vous avez chanté. Et alors, il m'a dit, mais tu sais, depuis 1948, depuis le jour du fondement de notre État, ce chœur a toujours été chanté dans notre langue en hébreu. En hébreu. Et alors, nous avons chanté aussi ce chœur en hébreu avec eux. Et cette pensée m'est venue. Le peuple d'Israël du monde entier a été rassemblé dans notre temps et au jour de leur indépendance, le jour où ils sont devenus un propriétaire, ils ont chanté, entonné ce cœur, comme pour dire, c'était le cœur du symbole de leur indépendance. Et après l'ouverture des sept sceaux, frère Branham a entonné ce cœur. Après l'ouverture des sept sceaux, l'Esprit de Dieu l'a conduit à entonner ce cœur. Et nous le remarquons et nous constatons la vérité parcourt son chemin et n'est plus à retenir. Comme le cœur le dit, aussi certain que cet intéressement, Dieu a fait en sorte que son peuple naturel soit rassemblé et a été implanté dans le pays de la promesse, dans leur pays natal. C'est ainsi que Dieu aussi fait en sorte que tous les siens soient plantés dans le pays des promesses divines pour notre temps. Et nous pouvons aussi la chanter ce cœur. Gloire, gloire, alléluia. Ce qui me touche aussi était la chose suivante. Nous l'avons, n'est-ce pas, année après année, toujours plus vu comment est-ce que le pays des promesses divines fleurit et est beau. Et j'ai ressenti que, donc en parlant d'Israël, Dieu a redonné ce pays à son peuple. Mais pas pour que son peuple croise les bras, mais qu'il puisse travailler et rendre cette terre arable, donc labourable, cultivable, fertile, et qu'il puisse l'arroser. Et cela, je l'ai constaté aussi pour nous, nous ne pouvons pas non plus nous croiser les bras. Dieu nous a déterminés à travailler avec lui pour que sa parole puisse par nous s'accomplir. Si le prophète Esaïe dit au chapitre 41, verset 19, « Je mettrai dans le désert le cèdre, l'acacia, le myrte et l'olivier, je mettrai dans les lieux stériles, le cypress, l'orme et le buis, tout ensemble. » Alors je pose la question, qui a semé le cypress? C'est le peuple qui est revenu dans le pays. De ce lieu stérile, de ce désert, ils en ont fait un paradis, comme c'est écrit dans Esaïe 51, verset 3. Et c'est ainsi que ils le disent avec fierté. Dans notre pays, on récolte trois fois par an du même champ, différentes sortes de fruits. Alors quand j'entends ça, mon cœur loue. C'est le pays que Dieu a promis, mais encore une fois, le travail de ceux que Dieu a ramenés dans leur pays est nécessaire pour que la promesse par eux dans leur pays s'accomplisse. De cette terre aride, un jardin de l'Éternel, d'un désert, un Éden. C'est la même chose pour l'Église du Dieu Tout-Puissant. Nous ne pouvons pas nous croiser les bras et dire « Dieu a promis ». Et cela aura lieu. Non. Justement, parce que Dieu l'a promis, nous devons nous mettre à l'œuvre. C'est pour cette raison que nous sémons la précieuse semence de la parole révélée de Dieu. Et comme le prophète dans un endroit dit, dans Jérémie 4, verset 3, « Défrichez-vous un champ nouveau et ne semez pas parmi les épines. Défrichez-vous un champ nouveau. » Jérémie 4, verset 3. Et que Dieu puisse nous accorder à tous que nous puissions ne pas semer dans les épines, parmi les épines, la précieuse parole, la précieuse semence incorruptible de la parole de Dieu. Mais que nous puissions défricher un champ nouveau. Et ensuite, dans ce champ nouveau, dans un cœur converti, circoncis, recevoir la semence incorruptible de la parole de Dieu. Et le Seigneur crée quelque chose de nouveau. C'est pour ça que nous devons défricher un cœur nouveau, un champ nouveau, pour pouvoir ensuite pouvoir semer la semence incorruptible précieuse de la parole de Dieu. Beaucoup de choses, pour ne pas qu'elle soit étouffée. Beaucoup de choses, et qu'elle puisse produire de son fruit. Le Seigneur veut a beaucoup de choses à nous dire. Il va nous conduire pendant ces heures. Nous voulons aussi lui faire confiance. Je m'excuse, mon cœur était un peu touché et j'espère que nos cœurs à tous vont être touchés. Car qui sommes-nous pour que Dieu nous ait appelés à sortir et qu'il nous ait agréés et qu'il nous ait sauvés, fait grâce et que nous lui appartenons et cela pour toute éternité. Celui qui dans son cœur pense à ça, il ne peut rien faire d'autre que de ressentir une profonde reconnaissance et dire: Seigneur, qui suis-je? Hier, dans le chemin du retour, en revenant de Lausanne, j'ai eu le privilège d'être au mariage du fils aîné de nos frères et sœurs Barillier. J'ai eu le privilège d'être à son mariage et je suis revenu avec le train. Et j'ai vu la belle Suisse. Je regardais les vignes, le paysage et les lacs. Et cela a touché mon cœur et a parlé à mon cœur. Dieu a fait toutes choses merveilleuses, de manière merveilleuse. Rien ne manque. Les fleuves sont là, les montagnes sont là, les lacs sont là. Et alors, je suis entré en jugement avec moi-même. Et ce que j'ai prononcé de mes lèvres, en pensant à moi-même pendant ce voyage, je ne veux pas ici le répéter. Mais il y a une chose que je peux dire. Après être entré en jugement avec moi-même, et après m'être jugé moi-même, une paix de Dieu qui surpasse toute intelligence a rempli mon cœur. Je pouvais chanter avec ce cantique: quand la paix avec Dieu pénètre mon âme, alors mon cœur exalte et loue l'Éternel. La paix de Dieu est comme un fleuve qui veut se répandre sur nous. Et celui qui a ce fleuve, il produira la paix partout où il est, autour de soi. Son entourage, les gens les plus proches de lui ressentiront cette paix et recevront par lui cette paix. Lisons dans Ésaïe 45. Ésaïe 45, lisons ici, donc le chapitre 45, oui. Ici, j'aimerais lire à partir du verset 19. Je n'ai point parlé en cachette dans un lieu ténébreux de la terre. Je n'ai point dit à la postérité de Jacob: cherchez moi vainement. Non. Moi, l'Éternel, je dis ce qui est juste, ce qui est vrai, et je proclame ce qui est droit, ce qui est vrai. Assemblez-vous et venez approcher ensemble, réchappez des nations. Et ensuite, à partir du verset 21, déclarez-le et faites-les venir. En allemand, apportez vos requêtes, présentez-les. Qu'ils prennent conseil les uns des autres. Qui a prédit ces choses dès le commencement et depuis longtemps les a annoncées? N'est-ce pas moi l'Éternel? Il n'y a point d'autre Dieu que moi, duquel il n'y a point d'autre Dieu en dehors de lui. Je suis le seul Dieu juste et qui sauve. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, car je suis Dieu et il n'y a point d'autre. Je le jure par moi-même. La vérité sort de ma bouche. Et une parole qui n'est point révocable. Tout genou fléchira devant moi. Toute langue jurera par moi, confessera par moi. En l'Éternel seul me dira-t-on, réside, j'ai la justice et la force. À lui viendront pour être confondus tous ceux qui étaient irrités contre lui. Par l'Éternel seront justifiés et glorifiés tous les descendants d'Israël. Tous les descendants d'Israël. Ici, il y a deux pensées qui me touchent particulièrement. La première, je n'ai point parlé en cachette. Le verset 19. Et la deuxième, assemblez-vous et venez approcher ensemble. Le verset 20. Réchappez des nations. Dieu n'a pas parlé en cachette. Paul écrit que si l'évangile est encore caché, il est caché pour ceux qui se perdent. Mais à nous qui sommes sauvés, la parole de la croix est une puissance de Dieu. Si la parole de Dieu dans ces derniers jours est cachée, alors elle est cachée pour ceux qui se perdent, qui méprisent Dieu. Mais tous ceux qui sont déterminés au salut, Dieu les conduira. Et ils entendront sa voix. Ils écouteront sa voix. Tournez-vous vers moi. Au verset 22, tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, car je suis l'Éternel, Dieu, il n'y a point d'autre. La vérité sort de ma bouche et la parole est irrévocable. Verset 23. Comme c'est vrai, une parole de Dieu, une parole de l'Éternel dans ces derniers temps a retenti. Des choses qu'il avait annoncées à l'avance. Et comme nous avons toujours eu à le dire, c'est la dernière parole de Dieu. C'est les dernières choses que Dieu a à nous dire. C'est l'appel à sortir de l'église du Seigneur qui doit être conduit à la perfection. Aujourd'hui, une pensée très spéciale m'occupe et c'est la suivante. Nous avons reçu la révélation de Dieu en Christ, entendu, reconnu la révélation de Dieu en Christ, vu comment est-ce que Dieu s'est révélé lui-même en Christ, a apparu en Christ. Et cela n'est pas resté caché que Christ est la révélation visible du Dieu invisible ici sur terre. la manifestation visible, la révélation de Jésus-Christ est la manifestation visible du Dieu invisible. Il est l'image visible. Et cela nous a été dévoilé, révélé. Maintenant, nous devons faire un pas de plus. Maintenant, nous voulons nous occuper de la révélation, de la manifestation de Christ dans son Église. Tel que Dieu a été manifesté en lui. Ça ne suffit pas de savoir que Dieu était en Christ et que toute la plénitude de la divinité a habité corporellement en lui. Ça, c'est bien. C'est le commencement. Mais ça ne suffit pas. Et ça ne suffit pas non plus de croire et de savoir que Dieu a envoyé un prophète pour appeler l'Église à sortir. Ça appartient à cela. C'est bien, c'est le commencement. Et si le commencement n'est pas bon, n'est pas vrai, alors la fin ne peut pas non plus être vraie et bonne. Il faut qu'il y ait un commencement qui est correct, qui est juste, qui est authentique, qui est vrai. Et ça peut être, ce commencement peut seulement être vrai si c'est Dieu qui l'a fait, si c'est Dieu qui l'a produit, si il est venu de Dieu. Si notre commencement dans la foi est venu avec de Dieu, nous allons être apportés en accord avec Dieu, avec sa parole, donc par sa parole et son esprit. Le message qui a été apporté est en accord total avec tout le témoignage des Saintes Écritures. Et je pense qu'il n'y a personne qui pourrait encore longtemps se donner le droit de dire « Là, frère Branham a dit les choses ainsi, a exprimé cela comme ça, alors je ne peux pas exactement l'accepter, ce que tu dis. » Laissez-moi dire cela clairement. Chaque rébellion dans ton cœur et dans mon cœur, chaque désobéissance dans ton cœur, en face de la parole de Dieu, est un signe de rébellion dans ton âme en face de Dieu. Si, par exemple, tu dis, là, frère Branham a dit ceci et cela, je ne peux pas l'accepter. Alors, c'est une rébellion. Tu te rebelles contre la parole de Dieu. Le temps est arrivé où cela doit être dit. Tous ceux qui sont de Dieu écoutent la parole de Dieu. Et si le Seigneur envoie un prophète, c'est pour, par sa parole, parler avec nous. Et c'est de cette manière que tous les prophètes ont pu dire, ainsi dit le Seigneur. Donc qui sommes-nous pour rejeter cela? Et le ainsi dit le Seigneur doit être pour nous valable en tant que ainsi dit le Seigneur. Nous devons vraiment savoir que c'est ainsi dit le Seigneur. Autrefois, chacun pouvait avoir ses propres interprétations, ses propres manières de voir. Et cette fois-ci, cela est devenu clair nouvellement pour nous au mur de lamentation. Je souhaite qu'un jour, je puisse avoir entre mes mains le Talmud. Et pour photocopier une seule page de ce livre et pour beaucoup ce sera plus qu'une prédication de 100 pages. Vous savez, ils lisent un petit verset de la Torah, ce sont les 5 livres de Moïse, et dans le Talmud, il est écrit au milieu de la page, il est très petit, et puis autour de ce verset, il y a en haut, en bas, à droite, à gauche, il y a toutes les différentes interprétations de plusieurs rabbins sur ce verset de la Torah. Et vous imaginez, tous les frères qui étaient présents cette fois-ci, comment est-ce que quand on a vu ça, ça a été dans notre cœur? Ici, il y a des hommes qui lisent, mais le verset de la Bible qui est écrit dans le Talmud, il disparaît. Parce qu'il se fixe plutôt sur les interprétations des rabbins sur cette écriture qui est en haut, à droite, à gauche et à droite. Et celui qui lit le Talmud, pour lui, je ne sais même pas même s'il lit le verset. Pour lui, d'abord, le verset n'est pas important. Parce qu'il se dit qu'en tant que quelqu'un qui n'a pas étudié, il ne peut pas comprendre de toutes les manières ce verset. Donc, il s'approfondit dans toutes les différentes interprétations des rabbins à droite, à gauche, en haut et à droite. Et et en bas. Ce temps pour l'Église est passé. De ne pas avoir une sorte de Talmud, mais de revenir à la parole originale de Dieu. Et de ne plus s'occuper des interprétations de tel et tel frère en haut, à droite, à gauche, et en bas, et partout. Mais de recevoir par le Saint-Esprit la parole de Dieu révélée dans la fin des temps. Ici, il est écrit que ce n'est pas en cachette que j'ai parlé. Ésaïe 45, verset 19, dans un lieu ténébreux de la terre. Ça, c'est quelque chose de merveilleux. Je le répète encore une fois, celui à qui ces choses restent cachées, ça veut dire que Dieu n'a pas encore ouvert les yeux. Qui de vous a écouté la dernière prédication, l'état de l'Église de la Odyssée? Qui l'a lu? La dernière brochure. Est-ce que cela n'est pas une prédication puissante? L'état de l'Église, la prédication? Donc, c'est concernant l'âge de la Odyssée. Vous savez, je ne l'ai pas seulement traduite. Je l'ai écoutée, je l'ai lue plusieurs fois et m'a touché le cœur. Dieu parle à son Église. Et celui qui a des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit aux Églises, il va écouter réellement. Il prêtera l'oreille. Il va prendre même ses crayons de couleur et il va souligner, il va prendre des notes. Tout ce qui a une signification spéciale pour lui. Dieu a une Église. Elle est l'appui et le soutien de la vérité ici sur cette terre. Cette Église doit être une bénédiction. Par l'Église, l'œuvre de Dieu doit vivre une continuité. Et comme c'est beau d'entendre Frère Branham dire, tout ce que Dieu était a été répandu en Christ. Et tout ce que Christ était s'est répandu dans l'Église. Qu'est-ce que nous devons dire à cela? Alors, qu'est-ce que nous devrions alors être? De quelle manière Dieu, par toi et par moi, devrait se manifester, pouvoir se révéler, pas seulement avec les lèvres. Et je suis reconnaissant à Dieu pour le message de la fin des temps qui est équilibré. Et je l'ai dit la dernière fois, il y avait une occasion particulière, un soir, et j'ai exprimé cette pensée. Dans une prédication, Frère Branham dit, vous qui vous appuyez sur les dons, faites attention, si vous n'avez pas la parole, alors vous pouvez parler avec des langues d'hommes et d'anges, vous pouvez chasser les démons, vous pouvez prophétiser, vous pouvez faire toutes sortes de choses, mais et à la fin, vous êtes perdu. Et à la fin, être perdu. C'est ce que Frère Branham l'a dit et c'est vrai. Mais si maintenant quelqu'un pense et se frotte les mains, heureux, joyeux et dur, penser pouvoir se frotter les mains et dire, oh, cela ne me concerne pas, n'est-ce pas? Cela ne me concerne pas. Alors Frère Branham dit, assez souvent aussi, en mentionnant Marc 16, verset 16, oh, voici ce que le Seigneur a dit à ceux qui ont cru. Il a dit que voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Et ce sont des signes que le Seigneur promet à ceux qui ont cru. Et si ces signes ne t'accompagnent pas, ça veut dire que vous n'avez pas encore cru. Et là déjà, de se frotter les mains, ça prend fin déjà. Alors là, nous entrons en nous et nous disons, Seigneur, mon Dieu, tu l'as dit. Est-ce que nous avons seulement une apparence de piété dans ce message? Est-ce que nous avons seulement une foi dans notre tête, un amour dans notre tête? Ou bien est-ce que nous avons vraiment ta parole dans notre cœur et nous sommes vraiment croyants dans notre cœur? L'Église du Dieu vivant doit arriver à cet état où tout ce qui dérange soit mis dehors pour toujours et que cela soit ôté de notre cœur. et que nous puissions devenir alors un seul cœur et une seule âme. J'attends ce jour. Et si nous sommes devenus un seul cœur et une seule âme, alors je crois que la parole de Dieu alors pourra être confirmée sur cette terre. Dieu confirmera alors sa parole par la prédication de la parole révélée. La foi vivante est survenue dans notre cœur. Mais si toujours de nouveau on est retenu et qu'on doit s'occuper de certaines choses qui chargent certaines personnes et qui sont un obstacle, alors on ne peut pas dans le combat aller de l'avant. Pas ce qui de l'extérieur vient contre nous, toutes les attaques, mais ce qui est en nous et parmi nous, c'est ça qui nous paralyse, tout ce qui est en nous et parmi nous et les uns contre les autres. Et comme on le dit souvent, les choses ont été différentes pour moi. Et mon bien-aimé frère est venu à moi la dernière fois, mercredi soir, et il me disait, « Oh, il y a une rumeur. » Et j'ai pu seulement que dire, « Moi, je n'ai jamais rencontré de rumeur jusqu'à aujourd'hui. » Jusqu'à aujourd'hui, il me disait, « Il y a une rumeur. » Je dis, « Moi, jusqu'à aujourd'hui, avez-vous déjà rencontré une rumeur? Avez-vous déjà vu une rumeur? Avez-vous déjà vu rencontrer une rumeur ? » Ou bien des paroles, moi jamais. J'ai jamais vu une rumeur devant moi. J'ai seulement vu des gens qui propagent des rumeurs. J'ai seulement vu des gens qui parlent de toutes sortes de choses. Mais si quelqu'un dit, il y a une rumeur, c'est pas vrai. Ce sont des gens qui propagent des rumeurs. Est-ce que vous comprenez la différence? Et si quelqu'un dit, il y a une rumeur ici, non, ce sont des gens le problème. Le problème, ce sont les gens, c'est pas la rumeur, ce sont les gens les problèmes qui propagent des rumeurs. Et nous avons une fois pour toutes comprendre que notre langue ne nous appartient pas et nous devons comprendre pour quelles raisons Dieu nous a appelés à sortir. Est-ce que c'est pour nous rendre la vie difficile les uns les autres? Pour former dans la vie des uns des autres des obstacles? Ou bien est-ce que c'est pour nous tenir comme un seul homme? Et j'ai pensé à ce que frère Branham a dit. Il disait mot à mot, chacun dans l'église a le devoir de protéger le berger et d'éloigner de lui toutes les attaques. Est-ce que vous comprenez de quoi il s'agit? Celui qui est au front, il est touché le premier. Mais si fondamentalement, tous, vraiment, qui appartiennent à l'Église, se tiennent derrière ceux, donc soutiennent ceux que Dieu a envoyés, alors cela ne va même pas les atteindre. Ils seront récepteurs de ces choses avant même qu'elles puissent atteindre le berger. C'est comme alors un mur, un char qui vont former autour du berger. Et c'est à cela que nous devons venir. Mais si dans nos propres rangs, il y a des calomnies, il y a de la médisance et de la haine, alors qu'est-ce qui devrait se passer? Alors ça ne vient même pas de l'extérieur. C'est la même chose comme dans les familles. Mais bien, frères et sœurs, je ne parle pas de mes propres choses. Si je le faisais, je devrais vous présenter mon programme. Je n'ai aucun programme. J'ai la responsabilité devant Dieu que j'ai dû recevoir. Pas parce que je le voulais, ou bien pas parce que je l'ai demandé, mais selon une décision divine. J'ai la responsabilité que j'ai dû recevoir et prendre de porter le message divin. Et ça, et que tous les coups sont dirigés vers moi. Pour moi, si je suis, quand je pense vraiment bien à cela, c'est le bon signe, c'est le meilleur signe. Celui, si ce n'était pas le cas, alors je devrais être vraiment en souci. Je devrais vraiment m'inquiéter de l'œuvre. Mais je veux exactement savoir, de la même manière, que je suis parmi des amis et parmi des frères, et parmi des vrais frères, des vraies sœurs, parmi des personnes sur lesquelles Dieu et moi, nous pouvons faire confiance et nous abandonner. Et je crois que je suis cet après-midi parmi de telles personnes. Loué soit le nom du Seigneur. Si nous avons bien compris cela, n'est-ce pas? C'est écrit dans 2 Chroniques, chapitre 20, verset 20. Nous le connaissons tous. Faites confiance à Dieu et faites confiance à ses prophètes, etc. Et vous réussirez et vous aurez la victoire. Nous devons comprendre que l'adversaire veut nuire à la confiance et à la crédibilité. Il veut nuire. Il veut détruire la confiance et la crédibilité. Si la confiance et la crédibilité est détruite, alors l'homme ne peut plus rien produire jusqu'à la fin de sa vie. Alors, il peut dire au revoir et dire, Seigneur, prends quelqu'un d'autre que tu veux. Qu'est-ce que l'ange de l'Éternel a dit à frère Branham directement lors de la première fois en mai 1946? Si tu peux atteindre que les gens te croient, alors rien ne pourra résister à ta prière, même pas le cancer. Si nous sommes certains que Dieu a envoyé un message, laissons-nous alors, dans ce temps qui nous reste à vivre, qui est si court, que nous puissions l'utiliser à vivre en paix les uns avec les autres et vivre profondément unis, liés les uns avec les autres et avec Dieu. Et que cela ne réussisse plus à l'adversaire de pénétrer parmi nous, de s'infiltrer pour détruire parmi nous. Nous ne pouvons pas prétendre être en communion avec Dieu et puis être en désunion les uns avec les autres. Pourquoi nous devons devenir un seul cœur, une seule âme? Vous voyez, Dieu s'est toujours tenu pour ceux qu'il a envoyés. Et s'il y avait quelque chose à leur faire comme reproche, Dieu l'a fait lui-même personnellement envers ses serviteurs. S'il y avait quelque chose à faire comme un reproche, Dieu l'a fait. Nous ne sommes pas serviteurs des hommes. Nous sommes serviteurs de Dieu. Et nous avons le droit de recevoir la réprimande par celui dont nous avons reçu le mandat. Et vous savez très exactement, Dieu s'est tenu contre Moïse dans une situation dans laquelle chacun, Dieu s'est tenu, pardon, pour Moïse, dans une situation dans laquelle chacun aurait agi comme Myriam et Aaron. Et personne, soyez sincère avec vous-même, personne n'aurait dit ce que Dieu a dit de nous. Soyez sincère. Maintenant, ici, je suis en train de parler, on ne parle pas avec les chaises, je parle avec vous qui êtes assis sur les chaises. Si cela était ta situation et ma situation, celle dans laquelle Moïse était, nous aurions dit la même chose que Aaron a dit, nous aurions pensé la même chose et fait la même chose que Myriam a fait et pensé et dit. Et qu'est-ce que Dieu le Seigneur a fait? Il vient de la colonne de feu. Dans Nombre 11 et 12, et qu'est-ce que, la première chose qu'il a posée, il a dit, si un prophète est parmi vous, alors je me révèle à lui par des songes et par des visions. Mais avec mon serviteur Moïse, c'est différent. Avec lui, j'ai parlé de face à face. Je l'ai mandaté. Je l'ai envoyé. Et la colère de Dieu s'est embrasée. Et la lèpre est devenue visible. Moïse a dû intercéder pour que la guérison ait lieu de nouveau. Nous tous, nous jugeons les choses différemment, comme Dieu lui jugerait. Vous pouvez lire toute la Bible et sonder les Écritures. Qu'est-ce que vous diriez, par exemple, sur Samson? Combien de prédications ont été tenues sur lui? Et si aujourd'hui je vous lisais seulement deux écritures sur lui, alors je suis convaincu que si je ne vous disais pas où cela est écrit, vous ne dormirez pas jusqu'à ce que vous ayez trouvé à la maison, dans la Bible, cela. Si cela vraiment est écrit. Si je vous dis pas où c'est écrit, vous ne pourrez pas me croire que cela est écrit dans la Bible. Si vous ne le trouvez pas vous-même et vous le lire. Est-ce que nous devons le faire? Nous devons une fois parler clairement et ouvertement les uns avec les autres. Et je suis de tout mon cœur convaincu, plus qu'auparavant, que nous ne pouvons pas continuer encore à jouer aux chrétiens. Le temps est là et nous avons à remplir un devoir en face de Dieu, et ce devoir doit être rempli et exécuté, et cela par toute l'église du Dieu Tout-Puissant. Un seul ne va jamais pouvoir produire quelque chose. Un seul homme. Imaginez-vous que frère Branham aurait été envoyé et Dieu ne lui aurait pas envoyé tous ces hommes-là pour écouter son message. Moi, je me suis noté deux choses aujourd'hui, car j'étais très touché de tout mon cœur, dans mon cœur. Et de ce cœur touché, est-ce que je dois vous dire où c'est écrit? Peut-être que c'est mieux, mais c'est aussi bien. Je vais presque dire, pouvoir dire, c'est pas que je ne crois pas que vous connaissez bien la Bible, mais le mot « juge » me plaît déjà très bien. Le mot, le livre des juges ne veut pas dire que chacun a le droit de juger son prochain. Donc, ici, quand il s'agit de juger, donc Dieu seul a le droit de prononcer et de penser un jugement. Seulement Dieu, personne d'autre. Vous pouvez le lire dans Juges 13. Oui. Verset 25. Et l'Esprit de l'Éternel commença à l'agiter. À Machané Dan, entre Soréa et Esh Shaol. Chapitre 14. Siméon descendit à Tima et il y vit une femme parmi les filles des Philistins. Maintenant, je vous lis du verset 14. Son père et sa mère ne savaient pas que cela venait de l'Éternel. Nous, en tant qu'hommes, nous dirions, comme je le disais, nous aurions jugé. Et nous avons la fonction en tant que juge. Nous avons bien appris cette fonction de juge, n'est-ce pas? Nous l'avons déjà bien appris, n'est-ce pas? Bien exercé, nous sommes mieux que tout le monde dans cette fonction, n'est-ce pas? Nous nous connaissons bien. Ici est un homme qui a été annoncé par Dieu, par l'ange de l'Éternel lui-même. Et vous savez ce que le Seigneur disait alors qu'il avait fait cette annonce dans le chapitre 13, verset 5. Car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête parce que cet enfant sera consacré à Dieu. Dès le ventre de sa mère. Et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. Terrestrement parlant, nous dirions, oh mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé là? Mais c'est lui qui est spirituel et qui a reçu la grâce de Dieu et qui sait comment juger les développements. Il restera calme et dira, Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire? Quelles sont tes intentions? Quelle est ta volonté? De quoi il s'agit ici? Et Dieu va nous accorder sa grâce pour que nous puissions comprendre que Samson cherchait une occasion de dispute de la part des Philistins. Et dans notre temps, c'est la même chose. Au moment où chacun a trouvé sa place, il n'est pas en train de juger, mais de comprendre quelles sont les intentions de Dieu avec ce qui se passe. Alors tout ira bien. Combien de fois frère Branham a montré aux jeunes, aux femmes leur place, et elles l'ont prise extérieurement. Mais le bras allongé avec toutes les révélations, avec tous les conseils qu'elles veulent donner, même si on ne les voit pas apparaître et prêcher. Mais il y a quelque chose qui touche de nouveau s'est fait valoir. Et Dieu ne veut plus tout ça. Dieu veut gouverner ses serviteurs à 100%, les conduire à 100%. Il veut que ses serviteurs lui soient soumis à lui et à personne d'autre. Et le peuple de Dieu a tout un droit là-dessus, à ce que ses serviteurs soient arrachés à toute influence et soient à 100% soumis à l'influence de l'Esprit de Dieu à 100%. Et si cela est le sens et l'objectif, était le sens et l'objectif, alors, a toujours été le sens, alors nous pourrons tous sauter comme des biches de joie et nous dirons, Seigneur, cela a servi à quelque chose. Nous te remercions de tout notre cœur. Et on ne va pas être en train de juger des serviteurs de Dieu. Tu as fait le commencement de la délivrance et nous verrons déjà la fin. Ne vous inquiétez pas, comme c'était avec Samson. Même si avec moi, même, j'entre dans le plus grave des jugements avec moi-même et que je me condamne moi-même jusqu'en enfer, je ressens comment est-ce que le bras de l'Éternel me fait ressortir et me dit « Ne crains pas, j'ai ma main que j'ai tenue sur tout ce qui s'est passé et je fais ce qui me plaît. » Notre Seigneur veut que son Église soit unie sous une seule tête, sous un seul chef, et ça c'est Christ. Et nous allons parler de cela dès que cette prédication va être éditée, va être envoyée. Je ne sais pas si elle est déjà envoyée. Dans laquelle Frère Branham seulement comme ça parle de la clé sur l'épaule. Vous savez, dans le prophète Esaïe, Esaïe 22, je mettrai sur son épaule la clé de la maison. Là, quand il ouvrira, nul ne fermera. Quand il fermera, nul n'ouvrira. Esaïe 22, 22. Et là, Frère Branham parle de cela, étire la comparaison et dit, Christ est la tête. Et pour quelle raison? Quel sens ont les épaules? Et il dit, les épaules sont une partie du corps. Et nous, en tant qu'Église, nous formons le corps du Seigneur. Tous les membres en son corps, dans le corps du Seigneur, doivent être joints ensemble pour former un même corps, pour pouvoir aller de l'avant ensemble. Que les épaules du corps du Seigneur puissent porter cette autorité divine dans la foi avec un cœur sincère et honnête. Car Jésus-Christ est une réalité divine. Et il est la tête. Et il est ressuscité. Et sa parole est la vérité absolue. Et sous sa parole, tout doit se soumettre. Chaque genou se fléchira et chaque langue confessera qu'il est le Seigneur. Oui, alors vous direz, mais cela se réfère aussi à lui. Mes bien-aimés, même déjà aujourd'hui, je veux le dire en insistant. Cela se réfère à lui dans toute sa entièreté. Et dans cette entièreté de Dieu, n'est-ce pas, le corps est inclus. Christ, en tant que tête, sans tous les membres qui appartiennent à son corps, qui sont joints dans un seul corps, Christ ne peut pas être parfait. Christ ne peut pas être perfectionné, achevé. Il faut que tout soit joint ensemble dans un seul corps. À la fin des jours, il faut qu'il y ait une église qui se tienne debout et qui porte sur ses épaules le mandat divin avec la puissance divine, l'autorité divine, et rien n'a le droit de manquer car Dieu a promis. Je vous restaurerai, rétablirai, restituerai tout ce qui est au commencement. Au commencement, cette l'église primitive était dans cette autorité divine, puissance divine. Et si nous voulons voir le Seigneur en tant que véritable, il faut que ce soit aussi à la fin la même véracité divine. Pas que quelqu'un en disant de lui-même, « Bon, maintenant moi, j'ai ici un devoir à exécuter. » C'était le dernier mercredi matin vers 10h. Il y a un prédicateur américain qui est venu à moi et qui me dit, frère Franck, moi, je suis l'autorité absolue en tant que berger, pasteur de l'église. Je suis l'autorité. J'ai pensé à moi-même, quoi? Un jeune homme encore? Je ne sais même pas si je lui confierais mon troupeau de vaches pour être berger. Et cet homme dit, je suis l'absolue autorité dans l'église en tant que pasteur. Je suis l'autorité. Oh, dans mon cœur, tout s'est renversé. Je n'ai pas prononcé ce que j'ai pensé. Je pensais, oh bien-aimé frère, si tu étais vraiment un vrai berger d'une église, alors tu dirais comme Pierre, paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non pas contrainte, mais volontairement, non comme dominant sur ceux qui vous sont échus. Donc pas seulement comme ça, mais pour les nourrir. Et le berger a un bâton, mais pas pour les bergers, pas pour les agneaux, pour les brebis, c'est pour les loups. Les loups reçoivent un coup de bâton et les agneaux et les brebis restent gardés. Paix mes brebis et donne-les à manger, nourris-les. Nous n'avons pas besoin d'autorité humaine. Nulle part, nous avons besoin de l'autorité de Dieu dans toute l'église du Dieu Tout-Puissant. Par la puissance de Dieu. Combien de vous attendent à ce que cela arrive? Et que Dieu aura une église dans les derniers jours, sans tache, sans ride, soumise entièrement à sa tête. Et pas un va revendiquer quelque chose. Tous, nous aurons tous le même. Nous revendiquerons la même chose. Nous revendiquerons les bénédictions de notre Dieu qu'il nous a promises et elles vont s'accomplir jusqu'à la dernière. Pas une manquera, restera sans s'accomplir. D'Éphésiens 1, je voulais lire. Le temps est passé, mais je vais seulement rapidement le faire. Du chapitre 3, Éphésiens 3, verset 2. Éphésiens chapitre 3, verset 2. Éphésiens chapitre 3, verset 2. Si du moins vous avez appris comment je fais part de la grâce de Dieu qui m'a été confiée pour vous, c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire un peu de mots. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été manifesté au fil des hommes, au fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Ici, pour moi, il s'agit de ce que Paul, en tant qu'un si grand homme de Dieu, parle du mystère qui était resté caché durant tous les âges, mais qu'ensuite, il fut révélé par l'Esprit à ses serviteurs. Ce mystère, c'est Christ à nous, Christ à nous, l'espérance de la gloire. Christ à nous, pas seulement en tant qu'une théorie, mais en tant que une réalité vivante et vivifiante, en tant que vérité et conduisant dans toute la vérité, une réalité vivante et conduisant dans toute la vérité. On peut beaucoup dire, on peut tout se dire, on peut dire toujours, oh, si rapidement, Christ vit dans mon cœur. Mais il faut que cette réalité, si vraiment Christ vit dans ton cœur, il faut que les autres puissent le constater. Christ, Paul avait reçu ce mystère révélé et il pouvait dire, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Et la même chose, je veux aussi pouvoir le dire. Si Christ habite en nous, cela doit être manifesté. Nous devons tous entrer, nous voulons, n'est-ce pas, tous entrer dans les, par les portes en paix. Nous voulons tous répondre présent quand le Seigneur Jésus-Christ reviendra pour prendre les siens auprès de lui. Et à cela, ça ne suffit pas que nous puissions un peu jouer les pieux. Et ça ne suffit pas que nous puissions visiter des réunions, aller à l'église. Mais nous devons aussi croire Dieu et expérimenter Dieu personnellement. Et que nous soyons de tout notre cœur changés, régénérés, transformés et participer à la nature divine pour que Christ ensuite, par la foi, puisse habiter dans notre cœur. Comme c'est écrit dans Éphésiens 3, verset 17. Et si Christ a pris sa demeure dans notre cœur, alors c'est sa puissance vivifiante, c'est sa puissance victorieuse, c'est sa puissance de résurrection pour sauver, pour guérir, c'est sa puissance qui alors se répand par nous comme un fleuve et agit. Et c'est ce que nous voulons, que tout, que Dieu qui était en Christ, maintenant que Christ soit en toi et en moi, puisse être en toi et en moi, sans nos propres efforts. Personne n'a besoin de s'efforcer de produire quelque chose. Je pense même que même si vous pouviez même laisser tout et dire, Seigneur, j'ai déjà souvent essayé et j'ai échoué. Maintenant, j'aimerais, Seigneur, que tu puisses le produire, le faire en moi et par moi. Je me mets entièrement à ta disposition. Je crois, comme l'a dit les Écritures, maintenant des fleuves d'eau vivante vont couler. Maintenant, la puissance de la parole et de l'esprit, et la parole du sang et de l'esprit vont pouvoir se manifester. Parce que je crois, comme dit les Écritures. Alors des eaux de vie couleront de mon sein. Dans la foi, nous voulons permettre à Dieu qu'il puisse le produire en chacun de nous. Pour que nous soyons son ouvrage, son œuvre. Laissez-moi encore tirer cette comparaison à la fin. Dieu a ramené Israël dans notre temps, dans le pays de la promesse. Mais Dieu n'a pas construit une seule maison en Israël. Ça, c'est les Israélites qui l'ont fait, qui sont revenus dans leur pays. Dieu n'a pas non plus une fois défriché ou bien semé. Il n'a pas une seule fois trait les vaches. Il n'a pas une seule fois extrait le miel de la chambre d'abeilles sur les planches. Dieu a donné la promesse. Et le peuple à qui appartenait la promesse, il l'a ramené dans le pays de la promesse. Et il leur a accordé la sagesse divine. La sagesse divine. Et il a béni leur travail pour qu'ils puissent faire tout pour que la promesse qui leur est donnée s'accomplisse dans ce pays. La même chose est avec l'Église du Nouveau Testament. Nous avons été ramenés à Dieu et à sa parole. Mais vous n'avez jamais vu Dieu se tenir là devant la chair et prêcher. Pas une seule fois. Une seule fois imposé. Vous n'avez pas vu Dieu imposer les mains aux malades. Vous n'avez pas vu Dieu prier avec les pécheurs. Vous n'avez pas vu Dieu visiter un malade à l'hôpital. Tout le ministère, l'exécution du mandat de Dieu pour l'Église, le ministère de l'Église, ce mandat a été donné à l'Église. Nous devons exécuter, nous devons prendre cette responsabilité divine. Et nous devons dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et ça, chacun doit le faire. Et ce qui est bien et étrange, c'est que le peuple juif, personne n'avait besoin de leur dire ce qu'ils avaient à faire. Ils n'ont pas demandé non plus à quiconque. Ils ont fait, car ils savaient ce qui était à faire. Quand il voyait le désert stérile, il voyait qu'il faut l'alimenter d'eau. Il savait exactement comment alimenter le désert d'eau et le rendre stérile et tout ça. Et Dieu leur a donné la sagesse. Et c'est merveilleux. C'est du Jourdain que tout un peuple est alimenté d'eau. Et le Jourdain commence d'une grande montagne. Oh, là, nous pensons au rocher frappé duquel l'eau a coulé. Et le Jourdain commence là. Il sort d'une montagne. Et qu'est-ce qui a été dit? Là où il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de vie non plus. Est-ce que cela n'est pas merveilleux? L'eau, le soleil et le champ est là, la terre est là. Et ensuite, il est préparé. Et déjà, elle est préparée, la terre. Et alors, déjà, on peut ensemencer, on peut semer. Dieu a mis tout à notre disposition. Et l'ordre missionnaire dit, allez dans le monde entier, prêchez l'évangile, guérissez les malades, guérissez les lépreux. Le Seigneur n'a jamais dit, allez, et moi je vais le faire. Il est avec nous, tous les jours. Et c'est lui qui le fait par nous. Et si nous avons compris cela, ce que Dieu, déjà dans l'Ancien Testament, disait, je crois que c'est dans Lévitique, chapitre 21, verset 8, là, il est parlé des sacrificateurs. Et il dit ici, c'est lui qui offre l'aliment de son Dieu. L'aliment de son Dieu. Je suis celui qui le sanctifie. Ce sera saint pour toi. Car moi, l'Éternel, je vous sanctifie. Lévitique 21, verset 8. Dieu est à l'œuvre et il prépare l'église pour son dernier ministère. Et nous devons arrêter avec tout ce qui dérange et nous rapprocher les uns les autres. Devenir un seul cœur, une seule âme. Nous tenir l'un pour l'autre. Dans la prière et tout ce qui appartient à cela, nous aimer les uns les autres et dire, bien-aimé Seigneur, tu nous as joints ensemble pour un devoir bien précis. Ce devoir, nous voulons maintenant ensemble l'exécuter. Et subitement, chacun saura où est-ce qu'il doit se mettre à l'œuvre. Qu'est-ce qui est à faire? Que Dieu puisse, avec une effusion puissante de son esprit, qu'il puisse par sa grâce nous bénir. L'eau vient. L'eau doit venir. Elle doit devenir une source en nous. L'esprit doit être répandu sur nous. On peut avoir la meilleure semence. Et si elle est semée dans le sable et qu'elle n'a jamais d'humidité, c'est en vain qu'on l'a semée. Mais Dieu prend soin pour tout. Lui en Christ et nous, et lui et Christ dans l'Église. Christ dans l'Église. Christ, la tête. Et nous, les membres, les organes qui exécutent, qui font la volonté de la tête, qui exécutent le mandat du Dieu Tout-Puissant. Avec la parole de Jean 15, je suis le cep, vous êtes les sarments. Qui porte le fruit? Le fruit est visible sur le sarment, pas les sarments. Le cep produit la vie jusqu'à dans les sarments. Les sarments ont besoin de la vie du cep pour porter le fruit. Et ils portent le fruit du sarment parce qu'ils ont la vie du sarment. Et la vie du cep, pardon. Ils portent le fruit du cep parce qu'ils ont la vie du cep. Et que le Seigneur puisse nous tailler, nous immonder pour que nous puissions porter encore plus de fruits. Que nous soyons devenus vraiment une nouvelle création, une nouvelle créature, réellement par la grâce de Dieu. Et que la puissance de Dieu soit manifestée et que nous soyons revêtus de cette puissance divine, de toutes les armures de Dieu pour pouvoir exécuter le mandat, le ministère de l'Église. Je suis convaincu que Dieu nous aidera à agir sous son ordre direct. Nous sommes revenus dans les pays de la promesse divine, des promesses divines, et le Seigneur lui-même fera en sorte que tout ait lieu selon sa parole et en accord total avec sa volonté en son temps, en son nom. Et je suis à 100% convaincu. Le Seigneur n'a pas parlé en cachette. Tout cela est accessible pour tous ceux qui veulent l'écouter, et il rassemble les siens. Et ils sont rassemblés à ses pieds et écoutent les paroles de sa bouche. Que tel que le mystère de Dieu a été révélé en Christ, que le mystère de Christ par l'Église soit manifesté. Notre Seigneur pouvait dire autrefois, ce n'est pas moi qui fais ces œuvres, mais c'est mon Père qui est en moi. C'est lui qui fait ses œuvres. Alors nous aussi nous pourrons dire, ce n'est pas nous qui faisons ses œuvres, mais c'est le Seigneur ressuscité qui vit en nous. C'est lui qui fait ses œuvres. Et que cela n'est pas merveilleux? Si nous pouvions voir comment est-ce que le Seigneur fait ses œuvres, et nous allons le voir. Nous serons des témoins de ce que Dieu nous a promis. Nous serons des témoins. Ça, c'est comme le peuple terrestre de Dieu, avec leur propre yeux, ils voient le pays et les promesses accomplies. Nous aussi, avec nos propres yeux, nous verrons que la parole de Dieu, jusqu'à dans tous les petits détails, s'accomplit en nous tous par la grâce de Dieu. Loué soit Dieu pour la dernière parole de Dieu, pour le message de la fin des temps, pour un prophète qu'il a envoyé pour nous ramener sur le chemin droit, sur le droit chemin, pour révéler les choses cachées et nous conduire dans les mystères de Dieu. Après l'introduction dans tous les mystères de Dieu, maintenant, à la fin, comme au commencement, Christ, en tant que le mystère principal, soit manifesté en lui-même, en nous lui-même. Que Christ lui-même soit manifesté en nous-mêmes. Alors, quoi est-ce que ça sert si nous connaissons tous les mystères et que Christ, en tant que le mystère de Dieu, par nous, n'est pas manifesté? Maintenant, après la révélation et l'introduction, dans tous les mystères divins de la parole de Dieu, Christ, le mystère de Dieu, en tant que le mystère de Dieu, dans l'Église, veut rassembler tout et se manifester lui-même encore une fois. Toi et moi, nous devons et nous serons une partie de cela. En tant que son temple, le nom du Seigneur soit loué. Amen. Levons-nous pour la prière. Peut-être que nous chantons encore tel que je suis sans rien de moi. Nous ouvrons les cœurs et dans la prière, nous persévérons devant Dieu. Si le Seigneur a parlé à quelqu'un, sentez-vous libre et prenez votre décision dans la présence de Dieu pour lui. Il vous a aimé. Oui, il vous a appelé à sortir et il mourut à Golgotha pour expier les fautes, pardonner les péchés, pour prendre fin, donc faire cesser notre passé, effacer notre passé et nous accorder une nouvelle vie. Cela est devenu une réalité. Quoique nous vivons, nous portons cette nouvelle vie, cette vie de Dieu dans ce vieux corps. C'est pour cette raison que nous soupirons avec toute la création et attendons la manifestation des enfants de Dieu, des fils et des filles de Dieu. Quand il sera manifesté, nous serons manifestés avec lui et nous serons semblables à lui. Tous les rachetés seront transformés à l'image du Rédempteur. Nous serons comme il est, semblables à lui, et nous le verrons. Alléluia. Bien-aimé cœur, si tu n'as pas encore de certitude, d'assurance d'être un enfant de Dieu, d'avoir reçu le pardon de tes péchés et d'être né de nouveau, accepte aujourd'hui en tant qu'un don de Dieu que le Seigneur t'accorde. Ne rejette pas cela. Il t'appelle. Pendant que toutes les têtes sont courbées et que les yeux sont fermés et que les cœurs sont ouverts, je veux demander et que quelqu'un veut lever la main et veut par cela témoigner qu'il consacre sa vie, il veut consacrer sa vie à Dieu. Faites-le maintenant. Merci. 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 Dieu a vu les mains. Merci. Aussi là-bas. Dieu le Seigneur a vu les mains. Toutes les mains. Il sait comment est-ce que nous pensons. C'est encore le temps de la grâce. Il appelle. Il appelle, il t'appelle aujourd'hui. Jésus t'appelle aujourd'hui. Jésus t'appelle aujourd'hui. Pendant qu'il appelle, Jésus t'appelle. Il t'appelle aujourd'hui. Viens aujourd'hui et consacre-lui ta vie. Il pardonne toutes tes fautes, te couronne de grâce et de miséricorde. Combien ont une requête pour eux-mêmes ou bien pour quelqu'un d'autre? Ça n'a pas d'importance quelle sorte de requête. Levez vos mains. Que Dieu vous bénisse. Beaucoup de mains se sont levées. Est-ce que vous pouvez croire que le Seigneur, par cela, sera glorifié en ce que il exauce nos prières communes et y répond. Et il nous accorde ce que nous lui avons demandé dans la supplication. Dans les supplications. Nous voulons maintenant ensemble prier. Père céleste, tu es un Dieu vivant. Nous n'avons pas besoin de crier. Tu n'es pas sourd. Et tes yeux sont ouverts sur ton peuple. Au-dessus de ton peuple qui par ton sang est racheté. Sous le coup de ta parole se tient. Reçois ton esprit. Et a reçu la révélation de ton nom, Seigneur. Révèle-toi maintenant par nous et en nous et en tous ceux pour qui nous pensons maintenant dans la prière. Nous croyons que tu le fais. Dieu Tout-Puissant, pendant que nous exprimons nos requêtes, tu les connais déjà. Tu les connais déjà. Mais nous te les apportons parce qu'il est écrit, si te demandez et vous recevrez. Frappez et elle vous sera ouverte. Bien-aimé Seigneur, nous frappons maintenant et nous te demandons ensemble pour nous, pour chacun personnellement et pour tous ceux que tu as mis dans nos cœurs, sur nos cœurs. Ô Dieu, confirme ta parole et glorifie ton nom. En ce que nous laissons monter nos prières vers ton trône de la grâce et que tu puisses répondre et accorder une confirmation à notre foi que tu as reçu nos prières. Nous te prions pour le salut des perdus, pour la guérison des malades, pour la délivrance de ceux qui sont liés. Ô Seigneur Dieu, que la parole de la croix soit une puissance de Dieu en tous ceux et par tous ceux qui maintenant ont entendu, ont écouté et vont encore écouter cette prédication. Je te remercie pour cela. Alléluia. Accorde-nous une confiance d'enfant et aussi des prières que nous apportons comme un enfant à son Père. Comme un enfant parle à son Père, ainsi nous parlons à notre Père céleste et tu nous exauceras. Accorde-nous aussi ta grâce pour reconnaître ce que tu veux faire et les raisons pour lesquelles tu as appelé chacun de nous et en quoi est-ce que tu veux utiliser chacun de nous. Et pour nous en tant que ton Israël spirituel, accorde-nous, Seigneur, ce que tu as fait pour Israël, l'Israël terrestre, nous, ton Israël spirituel, un pays qui était stérile, un désert, une église qui est dérobée, qui est sans puissance et qui était dans la captivité babylonienne. Tu l'as ramené pour te manifester puissamment parmi elles. Oh Dieu, nous voici. Nous te remercions de ce que bientôt nous allons voir que toutes ces ruines sont reconstruites, sont rebâties et que tout ce qui est détruit est rebâti. Car les destructeurs se retirent tel que le prophète l'a prononcé. Et Dieu est de nouveau parmi son peuple. Oh Seigneur, qu'est-ce que nous pouvons te dire? Notre cœur est touché. Qui sommes-nous que tu nous aies fait grâce? Que maintenant, chacun individuellement puisse être confié, consolé, fortifié et relevé par ta parole, par la consolation de ta parole, par ta puissance. Je te remercie pour ta présence et pour ta sainte et précieuse parole. En Jésus-Christ notre Seigneur. Amen.